un exposé aussi complet et aussi riche, c'est vrai que c'est difficile de prendre la parole et je ne me permettrai pas de rajouter que quoi que ce soit. Donc, de manière simple, vous pouvez poser des questions pour aller plus loin si vous le souhaitez ou clarifier quelque chose qui vous est apparu un peu difficile.
La question que je me pose à propos de la dignité, c'est quand commence la dignité et quand elle finit réellement. Parce qu'on ne peut pas dire que ça commence exactement à la naissance. On ne peut pas dire que ça se termine non plus exactement à la mort. Puisqu'il y a des profanations de cimetières, par exemple.
Oui, merci de cette question. Alors, évidemment, il y en a deux d'ailleurs. Vous posez la question de l'après-mort et de l'avant-naissance, si je vous entends bien. Je ne parlerai pas de dignité dans le même sens pour l'après-mort. C'est-à-dire que le passage d'une personne à l'état de vivant à l'état de cadavre implique bien sûr un respect du cadavre, mais la dignité du cadavre n'est plus celle du vivant. Ne serait-ce que parce que ce cadavre, il est parfaitement licite, si les conditions sont remplies, par exemple, de prélever un organe considéré comme vital. On ne va pas prélever, enfin, hélas on le fait quelquefois, mais on ne va pas prélever un organe vital sur un être vivant, parce que précisément, on ne peut pas le réduire au rang de moyen. Il ne peut pas être ici instrumentalisé de telle sorte que, justement, son humanité serait niée. Vous êtes un moins que rien, un prisonnier, par exemple, donc je vais vous prélever un rein, voire deux reins, et comme ça, vous disparaîtrez. Mais puisque, de toute façon, vous êtes condamné à mort, ce n'est pas grave. Je dis ça parce que ce raisonnement a été tenu. Au XIXe siècle, vous aviez des gens qui tenaient ce raisonnement. Je me suis laissé dire que, dans certaines contrées asiatiques, on n'était pas loin aussi de raisonner de la sorte. C'est-à-dire que des prisonniers condamnés à mort, éventuellement, eh bien, le prélèvement d'organes pouvait se faire là, puisque c'était une façon simplement d'anticiper l'exécution capitale. Donc, je crois qu'il ne faut pas attribuer le mot de dignité, au sens en tout cas où nous l'avons donné, à l'après-mort, parce qu'il y a un changement de statut. Le cadavre reste le cadavre d'une personne, et à ce titre mérite en effet considération, non seulement parce que nous interdisons dans toutes les sociétés humaines la profanation des sépultures, mais aussi parce que nous avons vis-à-vis du cadavre des soins à donner et une présence humaine autour de ce cadavre qui manifeste notre respect. Mais ça n'est pas ce n'est pas le même type de respect que celui qui est dû à la valeur absolue. Le cadavre n'a plus une valeur absolue au sens où le vivant a une valeur absolue. Voilà en tout cas ce que je tiendrai très fermement. Votre autre question, je suis prêt à revenir pour faire une autre conférence, parce que votre question c'est dignité et début de la vie. Alors aujourd'hui c'était fin de la vie, je me suis tenu quand même à mon sujet. Je veux bien, mais honnêtement, c'est un sujet d'une complexité tellement redoutable que je vais essayer quand même, parce que j'ai l'habitude de ne jamais me dérober aux questions, je vais essayer de vous dire quelque chose en une minute ou deux, mais en vous disant à l'avance que ce ne sera pas forcément complètement satisfaisant. La question sous-jacente à votre demande est faut-il considérer comme une personne humaine dotée de la dignité intrinsèque l'enfant à naître, et si oui, à partir de quel moment ? Enfin, voilà les questions qui sont posées. Alors, pour un juriste, ça ne fait pas de difficulté. La naissance, c'est le moment où la personnalité juridique est acquise. Pour le biologiste, bah, lui, ça ne fait pas de difficulté non plus, dans un sens, parce qu'il y a un développement continuum du zygote jusqu'à la mort. Et ce n'est pas parce qu'il y a une naissance à un moment donné que ce continuum est réellement bouleversé. Donc, le biologiste, il est muet là-dessus, il ne sait pas. Alors, le philosophe, est-ce qu'il a quelque chose à dire ? Alors, il peut, parce que ici plusieurs options sont discutées dans la sphère du débat public. Il peut considérer qu'il y a des seuils. Bon, mais alors s'il dit qu'il y a des seuils, ça veut dire qu'il s'appuie sur des biologistes qui eux-mêmes disent qu'il n'y a pas de seuil puisqu'il y a un continuum. ça va être bien délicat. Est-ce que, par exemple, là, je dis ça au hasard, on va dire que 12 semaines, puisque c'est ce que le législateur français dit, au moment de la possibilité d'avortement, c'est une impossibilité, est-ce que 12 semaines, par exemple, ce serait un seuil? Ben non, ça ne peut pas être un seuil, puisque c'est une décision simplement légale, qui d'ailleurs, au départ, c'était 10 semaines, c'était parce que, à ce moment-là, la technique d'aspiration qui était utilisée pour les avortements n'était plus valable au-delà de 10 semaines. On a modifié la technique, donc on peut faire 12 semaines. Chez les Anglais, c'est 22 semaines. Enfin bref, on voit bien qu'il n'y a pas de limite assignable dans le continuum qui va du zygote à la naissance. Alors, la prudence peut consister à dire quand on ne sait pas s'il s'agit d'une personne humaine, puisqu'il y a débat, la prudence, principe de précaution, c'est de faire comme si c'en était une. Peut-être que c'en est pas une, diront certains, mais puisque nous ne le savons pas avec certitude, vaut mieux faire comme si c'en était une, et par conséquent, respecter la personne humaine. Alors vous allez me dire, mais alors dites donc, notre législation là sur l'avortement, oui, mais notre législation sur l'avortement, si vous la lisez de près, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que, article 1er de la loi du 17 janvier 1975, dite loi Veil, elle dit, toute vie doit être respectée dès son commencement, c'est-à-dire dès la fécondation, dès le début de la vie. Donc le principe, c'est celui-là. Maintenant, par dérogation, quand une femme ne peut pas accorder l'hospitalité de l'être qu'elle porte en elle, eh bien, elle ne sera pas poursuivie pour infraction. C'est-à-dire que ici, le raisonnement juridico-philosophique consiste à dire « nous ne touchons pas le statut de l'embryon, dont nous voyons bien qu'il doit être protégé, mais nous disons qu'en certaines circonstances, eh bien, la mère ne sera pas pénalisée pour avoir procédé à un avortement. » Alors évidemment, en disant cela, j'ouvre, je le sais, des champs d'exploration gigantesques. Et il faudrait parler du statut de l'embryon, du problème que pose la recherche qu'on peut faire sur lui, sur le fait que, par exemple, dans un accident récent, un chauffard ayant provoqué l'accouchement prématuré et donc l'enfant est mort d'une maman, on a dit à la maman, vous ne pouvez pas être indemnisé pour homicide puisqu'il n'y a pas d'homicide, puisqu'il n'est pas né. Oui, mais la mère disait, bah oui, mais enfin, il avait quand même 7-8 mois, il était viable. Ah oui, mais il n'est pas né, donc pour nous, juristes, n'existe pas. Par contre, si vous avez eu un petit chien à l'arrière, là, l'assurance aurait pu marcher parce que lui, il rentre dans nos catégories. On voit bien qu'on n'est pas à l'aise en France, et pas seulement en France, avec le statut à donner à l'enfant à naître. Et voilà pourquoi je disais que même en prenant 2-3 minutes pour ne pas me dérober, j'avais conscience d'ouvrir plus de questions que d'enfermer. Mais je reviendrai si vous m'y invitez. Dignité et début de vie.
Oui, je souhaiterais, si vous le permettez, vous interroger sur un point qui me pose problème en termes d'histoire, n'est-ce pas? Comment se fait-il que sur des problèmes de société tels que celui que vous évoquez, alors je vais remonter très en avant, n'est-ce pas? J'aurais l'air d'être hors sujet, mais je ne le serai qu'à moitié. En matière de dignité, de liberté reconnue notamment aux femmes, pourquoi dans ce pays, il faut attendre la loi Neuwirth de 1967 pour que la liberté de la contraception apparaisse, c'est-à-dire avec quelques dizaines d'années de décalage par rapport aux pays que vous citiez, de type anglo-saxon, type scandinave, etc. Avançons un peu. Vous avez parlé du traitement de la douleur. Pourquoi dans ce pays y a-t-il eu ce retard effarant qu'on peut compter aussi en dizaines d'années quant à l'intérêt porté au traitement de la douleur, n'est-ce pas, et le retard qui fut pris pendant si longtemps? Pourquoi dans ce pays les soins palliatifs, au passage on peut remercier bien qu'il ait disparu récemment malheureusement le docteur Maurice Abiven, pourquoi faut-il attendre les années 80 pour que le concept de soins palliatifs qui existait des dizaines d'années avant dans d'autres pays apparaisse et soit, je ne dirais pas développé, soit sous-développé, puisque le dernier rapport de Marie de Henzel établit bien que la réalité n'est pas conforme, n'est-ce pas, à l'image idyllique que l'on veut en faire un peu trop souvent. C'est bien dommage, d'ailleurs. Et j'en arrive à la loi Leonetti. Pourquoi faut-il attendre 2005 pour que le droit de refuser, pour parler simple, l'acharnement thérapeutique soit reconnu? est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a une espèce de décalage sociologique permanent entre les demandes des citoyens de ce pays-ci et la réalisation juridique de leur attente, n'est-ce pas ? Même quand toutes les preuves sont là du fait qu'il y a une quasi-unanimité, enfin à 20% de la population près sur des demandes, pourquoi ce décalage constant ? Et puis, puisque vous glissiez au dernier stade, qui est les quelques cas, effectivement, il y a quelques milliers de cas comme ça par an en France, pas plus, les quelques cas qui conduisent à demander que sous forme juridique, une forme d'exception, effectivement, euthanasique soit admise. Pourquoi ne pas parler, comme vous l'avez fait rapidement à propos de la Belgique ou de la Hollande, pourquoi ne pas parler, par exemple, de l'État de l'Oregon, où nous disposons depuis 2003, c'est-à-dire bien avant la loi Leonetti, depuis 5 ans maintenant, d'une étude parfaitement conséquente sur ce que le dernier petit glissement que vous récusez a apporté. Si vous me le permettez, je l'ai en main, le résumé de l'étude en question. Il ne s'agit pas de sentiments, il ne s'agit pas de sémantique, il ne s'agit pas de définition. Dans les 50 États américains, les patients... Alors, excusez-moi, je vais vous dire l'auteur, c'est un collègue à vous et à moi. Il n'a ni votre spécialité, ni la mienne. Il est professeur de droit constitutionnel dans un établissement très prestigieux qui est la Boston College Law School. Quelques lignes, si vous me les accordez. Dans les 50 États américains, les patients ont depuis longtemps le droit de refuser l'acharnement thérapeutique et de rédiger des testaments de vie et de désigner des personnes habilitées à refuser en leur nom tout traitement s'ils sont incapables de le faire eux-mêmes. Donc, c'est une étude de 2003. On est encore à 2 ans de la loi Leonetti. Mais il y a bien des années que dans les 50 États américains, ça se fait. Continuons. En 1997, donc 10 ans avant l'année actuelle, n'est-ce pas ? 11 ans. L'Oregon a été le premier État, et jusqu'à présent le seul, à autoriser les médecins à prendre des mesures actives pour abréger la vie de leurs patients. La loi... Bon, alors, on vous décrit les conditions. Il ne s'agit pas d'abréger la vie de ceux qui ne veulent pas. Hein. Vous vous en doutez, il s'agit des fins de vie douloureuses, phase terminale, etc., etc. Un an après la mise en vigueur de la loi, même ses adversaires les plus déterminés devaient admettre que l'application se faisait d'une manière exemplaire. La directrice de l'Association des centres de soins palliatifs de l'Oregon, qui avait pourtant combattu le projet, reconnaissait, on la cite, que la loi donnait aux Oregonais une possibilité supplémentaire de choix à la fin de leur vie. C'est seulement un choix parmi beaucoup d'autres. Le suicide médicalement assisté a donné lieu à moins de 1 mort par 1000 habitants. 58 patients ont demandé et obtenu des prescriptions, mais seuls 38 d'entre eux les ont utilisés. C'est très intéressant. Cependant, même ceux qui décident de ne pas utiliser la prescription en tirent le sentiment de conserver la maîtrise de leur vie par le seul fait d'avoir le médicament à portée de main. Il y a d'ailleurs des indices montrant que les avantages du système s'étendent au-delà du suicide lui-même. C'est ainsi que l'Oregon figure aujourd'hui parmi les États américains fournissant les meilleurs traitements antidouleurs et en général les meilleurs soins palliatifs aux malades en phase terminale. Certains estiment que si ces traitements ont été améliorés, c'est en raison de la volonté des professionnels de ne pas porter la responsabilité des décisions de suicide. Au mois de mars 2002, un médecin qui avait, on le cite, je ne donne pas son nom, qui avait combattu le projet de loi, a écrit dans le journal de l'Oregon qu'il s'était rallié après avoir constaté que le débat autour de la loi avait conduit à des efforts considérables pour améliorer l'assistance aux mourants.
Oui, je crois que nous avons compris le sens de votre question et de votre intervention.
Alors je conclus en disant que, notamment l'association dont, à juste titre, vous dites que son nom est mal choisi, il faut leur pardonner, c'est une erreur de jeunesse, c'est une association qui a été créée il y a 25 ans, n'est-ce pas ? Le mot « dignité » dedans, effectivement, n'est pas le mieux choisi, n'est-ce pas ? Eh bien, je vous dirais que cette association, la DMD, pour ne pas la nommer, qui est un ardent partisan du développement des soins palliatifs, contrairement à ce que un malentendu volontaire ou pas, je n'ai pas encore réussi à le comprendre, laisse planer, n'est-ce pas ? Eh bien, cette association espère que le petit complément législatif pour lequel elle continue de limiter aura notamment pour effet quelque chose de très important pour l'ensemble des citoyens de ce pays, c'est-à-dire effectivement enfin accorder l'attention aux soins palliatifs et les moyens aux soins palliatifs qui sont une évidente nécessité.
Bien, je vous remercie pour votre intervention militante. Vous avez eu le temps, le loisir de l'exposer. Et j'aimerais, quand je me trouve dans votre situation, d'ailleurs disposer du même temps, ce qui ne se présente pas beaucoup. Regardez, les médias donnent la parole à votre association et la donnent extraordinairement, la télévision en tout cas pratiquement jamais, presque jamais, à ceux qui pensent autrement. Donc moi je me réjouis que la démocratie règne dans cette salle et vous avez vu, vous avez eu le temps donc de vous exprimer. Alors vous avez pris les choses de loin. La loi Neuwirth ne concerne pas directement notre sujet, vous me l'accorderez. Et vous posiez la question, pourquoi sur cette question, comme sur le traitement de la douleur, l'arrivée des soins palliatifs, le refus d'obstination déraisonnable, notre pays était plus en retard que d'autres. Je crois qu'il faut être en effet juste et reconnaître que notre pays a pris du retard. Les États-Unis, dont la culture anglo-saxonne imprégnée d'individualisme, leur a permis certainement, de, par exemple, d'inventer la notion de directive anticipée dans un des États dès 1976. Et nous autres ne l'avons fait, en effet, que très, très récemment. Maintenant, je suis alors tout à fait de votre avis pour ce qui concerne le retard des traitements antidouleurs dans la France d'aujourd'hui. J'y ai insisté moi-même, dans la France d'il y a quelques décennies, j'y ai insisté moi-même tout à l'heure suffisamment pesamment. Et aussi dans le développement des soins palliatifs, nous ne pouvons que nous rejoindre sur cette déploration. Mais votre question était peut-être plus incisive, peut-être aviez-vous une réponse derrière, mais pourquoi chez nous plus, et non pas justement dans tel ou tel pays anglo-saxon ? Ben, c'est vraiment moi aussi une question que je me suis souvent posée. Alors hélas, dans le cadre d'une conférence, je ne peux pas faire ce que je fais dans mes cours ou voire dans mes écrits. Il y a en effet deux fonds culturels assez différents. Nous sommes, nous autres, en France, partie d'un autre présupposé que les Américains et que les Anglo-Saxons, concernant même la construction juridico-politique de nos systèmes respectifs. Pour un Anglo-Saxon, il faut tout faire pour empêcher les pouvoirs d'empiéter sur la volonté individuelle, alors que nous autres continentaux, j'allais dire, pour mettre la Grande-Bretagne à côté, justement, nous autres continentaux, c'est-à-dire en gros français, allemands, nous sommes les héritiers des Lumières du XVIIIe, nous sommes les héritiers de Rousseau et de Kant, et nous considérons que l'appartenance à un corps qui nous englobe est aussi une garantie de notre liberté. Nous ne raisonnons pas de la même façon. C'est dommage que je ne puisse pas développer ce point parce qu'il a en effet des implications culturelles et philosophiques du type de celles que vous avez pointées. Donc il est possible, il est même plus que possible, il est certain que concernant un certain nombre de libertés individuelles, nous ayons pris parfois, oui, du retard. Mais j'ai aussi en vue autre chose. J'ai en vue que, je l'ai dit tout à l'heure, une certaine médecine s'est trouvée grisée. Et c'est ça qui a été douteux. Et n'a pas écouté les voix d'un centre d'autorité morale. C'est quand même assez étonnant pour quelqu'un qui fait de l'histoire du système de soins de constater que, par exemple, un pape dont on ne peut pas dire qu'il était laxiste en morale, le pape Pie XII, a demandé dès décembre 1957 au réanimateur italien d'arrêter de réanimer à tout craint comme il le faisait. Il n'a pas été entendu. C'est quand même quelque chose de se trouver grisé de cette façon. De voir que l'Église, contrairement à ce qui s'est dit ça ou là, en tant qu'autorité magistérielle, par exemple, a toujours plaidé pour l'allègement des souffrances. Moi, j'ai lu des textes du XVIe siècle, du XVIIe siècle, de théologiens. Évidemment, ce ne sont pas des textes très accessibles, ils sont encore en latin, il faudra bien les traduire un jour. Mais où il est dit, de la façon la plus nette, que la souffrance en fin de vie n'a pas de sens, qu'il ne faut pas imposer un blessé sur un champ de bataille de l'amputer s'il n'est pas d'accord. Enfin, il y a des choses qui étaient dites par les autorités morales, qui étaient suivies d'ailleurs en gros par les autorités médicales. Et moi, j'attribue en partie, en tout cas, à cette espèce de griserie, hein, je ne sais pas comment la nommer autrement, d'un certain corps médical qui a oublié que l'essentiel n'était pas de guérir, mais que l'essentiel était de soulager. Et que certains ont été jusqu'à croire que puisqu'ils ne pouvaient plus guérir, il n'y avait plus rien à faire, alors on allait confier aux infirmières aux médecins qui n'avaient pas de grandes qualifications, les soins palliatifs. Donc, ce n'était pas une discipline gratifiante, ce n'était pas une discipline reconnue. Ou inversement, parce que pour moi, c'est le même genre d'attitude, puisque je ne peux pas le guérir, autant qu'il s'en aille, autant l'euthanasier. Et vous savez très bien que dans les années 80, il y a eu quand même en France, elles ont beaucoup régressé aujourd'hui, elles ont énormément régressé. Il y a eu beaucoup d'euthanasie clandestine sous la forme de cocktails lithiques, parce que précisément la médecine, lorsqu'elle ne pouvait plus guérir, considérait qu'il n'y avait plus qu'une chose à faire, puisqu'on ne pouvait pas vous guérir, c'était que vous disparaissiez. Et donc, toute cette dimension du soin, de l'accompagnement, a été mal considérée. Alors, on ne peut pas faire l'histoire ce soir complète. Moi, j'ai été content que vous parliez de l'Oregon, parce que c'est évidemment un État qui m'intéresse beaucoup. Et ce que j'observe, c'est que dans les pays à très forte coloration individualiste, comme les pays anglo-saxons, Grande-Bretagne, État des États-Unis, il y a une résistance très forte, que je vois même plus forte que chez nous, à l'idée d'une légalisation de l'euthanasie. Il y a un tas d'affaires juridiques qui ont été traitées. C'est-à-dire que ces pays qui développent énormément la liberté individuelle savent qu'il y a une limite à ne pas franchir, et c'est celle qui donnerait le permis de tuer. Alors, il y a un petit État, l'État de l'Oregon, qui a franchi le pas, vous l'avez rappelé. Ce n'est pas le pas de l'euthanasie, vous l'avez dit vous-même, c'est le pas du suicide assisté, parce qu'on ne veut pas quelqu'un se mette à tuer quelqu'un d'autre. Et donc, ils ont proposé cette situation qu'ils considèrent comme un compromis par rapport à leur tradition et par rapport à leur éthique, de donner la possibilité à quelqu'un qui le désire de se suicider lui-même. Mais on ne peut pas le tuer s'il lui le désire, comme ça se passe aux Pays-Bas ou en Belgique. C'est donc le suicide assisté. Alors évidemment, on n'est pas exactement dans le même cas de figure. Moi, je peux vous raconter des histoires, même d'un soin palliatif, où l'on a mis à disposition de patients qui étaient terriblement angoissés des fioles en leur disant ben voilà, si vraiment on n'arrive pas à soulager votre douleur, vous savez que vous avez cette fiole. Bon, ce n'était pas conforme à la loi. Mais je sais par confidence que ça s'est fait. Et dans les cas qui m'ont été racontés, le seul fait d'avoir mis la fiole a soulagé les personnes et a fait que leur angoisse a disparu. Je ne dis pas qu'il faille faire ça, parce que c'est ouvrir une porte, on ne sait pas trop bien, là encore, où on l'ouvre et on ne sait pas trop bien où on la ferme. Mais en tout cas, c'est pour dire que l'acte du suicide n'est pas à considérer éthiquement de la même façon que l'acte de donner la mort à autrui. Je vais revenir sur ce point qui me paraît extraordinairement important. Mais je reste encore un instant avec l'État exceptionnel dans le monde anglo-saxon, donc le petit État de l'Oregon. Vous avez cité un article que je connais fort bien. Je peux vous en citer un autre qui d'ailleurs reprend une partie des données que vous avez énoncées. L'État de l'Oregon, donc, a un bon système de soins palliatifs et donne cette possibilité de suicide assisté. Et les gens à qui demandent cette possibilité de mettre fin à leur jour eux-mêmes, dans l'immense majorité des cas, je crois que c'est de l'ordre de... Je n'ai pas mon document sous les yeux, mais c'est de l'ordre de plus de 80% en tout cas, dans l'immense majorité des cas, n'utilisent pas le produit en question et choisissent une fin de vie accompagnée par les soins palliatifs, ou alors choisissent, non pas de mourir de faim, c'est une absurdité, j'entends ça à longueur de chaîne de télévision, de dénutrition. C'est-à-dire que, un petit peu comme les personnes âgées, n'ayant plus en elles-mêmes l'énergie de vivre, mangent un yaourt, un demi-yaourt, un quart de yaourt, et puis petit à petit... se nourrissent de moins en moins et donc vont mourir non pas de faim, la faim c'est autre chose, c'est une sensation d'un autre ordre, mais meurent de dénutrition. Nous savons, les médecins, je parle sous leur contrôle, savent accompagner les morts par dénutrition ou par déshydratation. Et donc l'État de l'Oregon, donc, qui a institué pourtant le suicide assisté, eh bien, on s'aperçoit que si les soins palliatifs marchent bien, il n'est pratiquement pas utilisé. Et donc les gens préfèrent mourir de mort, si vous me permettez l'expression, ordinaire, naturel, plutôt que par ce moyen violent qui laisse tout de même des traces, qu'on le veuille ou non, auprès des proches, dans l'inconscient, pas forcément la première génération, mais la deuxième, voire la troisième génération. Donc là, il y a des enjeux quand même qui sont colossaux et auxquels il faut prêter attention. Pour ce qui concerne la Hollande, je connais très bien aussi la situation, elle n'est pas tout à fait la même que la Belgique, mais en Hollande, où nous avons du recul, vous le savez, il y a Bon, il y a quand même 4 à 5% d'euthanasie, c'est énorme, je trouve. Ça veut dire que s'est installée progressivement dans ce pays l'idée que ben, il est normal de s'en aller quand on décide de s'en aller. Et vous savez très bien que ce n'est pas uniquement des malades incurables en phase terminale qui demandent à s'en aller. Hein. Il a fallu, d'ailleurs, c'est très récent, qu'un juge dise, mais attention, la dépression psychique, docteur, ce n'est pas une cause, alors que pourtant, il y a l'allègrement pour délivrer des permis d'euthanasie avec ça. Donc, la dépression nerveuse, le fait de perdre le moral, ça n'est pas une... Bon. Et alors, qu'est-ce qui se passe en Hollande? On avait dit, si on met des critères très clairs, on va régler le problème des euthanasies clandestines. C'est exactement le contraire qui s'est passé. Les enquêtes les plus officielles, les plus connues, ça avait beaucoup frappé d'ailleurs les parlementaires de la mission Leonetti, quand ils étaient allés en Hollande, les enquêtes les plus officielles montrent que 45% des euthanasies en Hollande ne sont pas déclarées. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a déplacé le curseur de l'interdit, eh bien, on ne va pas s'encombrer de la loi, personne ne le saura. Et dans 15% des cas, des 45% d'euthanasie non déclarée, il y en a qui sont faites sans le consentement du patient. Donc les dérives, elles sont là. Il faut être vigilant, il faut être attentif, il faut être informé surtout, et non pas déformé. Alors les Belges, je dînais il y a 15 jours avec la présidente de l'association du droit de mourir et de la dignité belge. Chez les Belges, il n'y a pas ce type d'enquête. Ils n'ont pas fait ce type de travail que les Hollandais ont fait sur les euthanasies qui sont pratiquées. Donc, et le débat, une fois qu'on a ouvert la porte, évidemment, c'est celui, vous le savez bien, on l'a posé, à l'âge de 12 ans, est-ce qu'un enfant a le droit de demander l'euthanasie contre l'avis de ses parents, quoi. Voilà la question qui est posée, par exemple, aujourd'hui, en Hollande, le plus officiellement. Et voilà de quoi on débat démocratiquement. Parce que vous vous doutez bien qu'une fois qu'on a rompu la digue, il y en a d'autres derrière qui sont prêtes à se rompre. C'est pourquoi, me semble-t-il, la bonne digue, la vraie digue, c'est celle qui consiste à continuer à dire non. Il ne faut pas délivrer le permis de tuer à qui que ce soit, même à la demande d'une personne. Mais en revanche, il faut accepter que dans des situations tragiques, dans des situations épouvantables, il y ait des transgressions. Mais, et c'est là que c'est vraiment impossible à faire passer à la télévision, ce que je vais vous expliquer, et qui pourtant philosophiquement se tient rigoureusement et juridiquement aussi. Mais lorsqu'il y a transgression de la règle, il ne faut pas changer la règle. Il faut simplement apprécier la nature de la transgression. Est-ce que c'est la même chose de transgresser une loi et de nier la loi? Ben non. Si je franchis une ligne blanche parce que je suis derrière une charrette à foin qui monte pendant 3 km et que j'en ai marre d'attendre derrière, je transgresse la loi du code de la route. Est-ce que je demande pour autant, si je me fais verbaliser, le changement de la règle? Ben non, je l'ai transgressé. Mais peut-être que le gendarme sera assez intelligent pour dire, oui, dans la situation où vous étiez, c'était normal. Le juge va apprécier si oui ou non la transgression... pouvait être évité ou pas être évité. Mais nous savons cela depuis 25 siècles. Moi, j'enseigne à mes élèves depuis si longtemps le livre 5 de l'éthique à Nicomaque d'Aristote. Aristote dit la loi, elle est faite pour tout le monde. Elle n'est pas faite pour des situations privées, pour des situations singulières. Elle n'est pas faite pour des réactions émotionnelles sur telle ou telle situation. La loi, elle est faite pour tout le monde. Elle est générale ou elle n'est pas la loi. Et le juge dispose de l'équité, c'est-à-dire que dans la situation, il va savoir si, oui ou non, il fallait poursuivre Mme Imbert, il a décidé que non. Dans la situation de Mme Tramois en Dordogne, il a décidé que là, on avait affaire à une médecin particulièrement psychorigide, et donc on lui a donné quand même 6 mois avec sursis, parce que ce qu'elle avait fait était quand même tout à fait en dehors de ce que les recommandations de bonne pratique médicale exigeaient que l'on fît, et surtout, elle avait procédé d'une manière tellement autoritariste vis-à-vis de son personnel que, au tribunal, les choses ont été dites. Les médias, évidemment, n'ont pas raconté ça, mais elle a quand même eu un jury d'assises, un jury populaire, a quand même dit non, là, on peut pas dire que la transgression mérite l'indulgence complète. Bon, donc c'est à chaque situation d'être apprécié. Mais si chaque transgression, chaque exception donne lieu à une loi, alors il faut dire que ce n'est plus la loi. Et mon maître Paul Ricoeur en philosophie, qui est décédé juste avant le vote de la loi Leonetti, me disait dans une conversation, et d'ailleurs il y a des traces écrites de ce qu'il a dit dans cette conversation, mais enfin, comment se fait-il que l'on prétende légiférer sur des exceptions? Mais il dit, mais c'est contraire à toute la tradition, je veux dire, c'est pas les exceptions qui font la loi, c'est le contraire, c'est parce qu'il y a des lois qu'il peut y avoir des exceptions, c'est parce qu'il y a des lois qu'il peut y avoir des transgressions. Donc ne confondez pas transgresser la loi et nier la loi. Et évidemment, je ne peux pas expliquer ça. Là, je vous l'explique en 5 minutes, il me faudrait beaucoup plus de temps. Dans mes écrits, je suis un peu plus long, bien entendu. Mais je ne peux pas expliquer ça en 2 minutes 30 au journal de 20 heures, à supposer qu'on m'y invite un soir à la télévision. Vous pensez bien que le discours que vous tenez, bah, il est beaucoup plus audible, il est beaucoup plus facile, bah oui, ça va de soi. Voilà. Mais le temps de la réflexion que nous prenons ici doit exiger que nous soyons quand même un peu plus vigilants, un peu plus attentifs à ce que nous disons quand nous voulons ouvrir des digues. Mais ce que je vous dis là, à vous, militants visibles de la DMD, je le dis à des amis qui sont également de votre mouvement, des amis très proches, très, 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 très personnels, et ils m'entendent. Certains me disent, ah oui, peut-être que je ferais mieux d'adhérer à Jalmalve, c'est-à-dire adhérer à un mouvement qui au lieu de dire aux gens, non mais au lieu de conforter les gens dans l'autodépréciation d'eux-mêmes, va essayer, vaille que vaille, anonymement, courageusement, mais ça n'intéressera jamais les médias, bien entendu, eh bien, va essayer jusqu'au bout d'accompagner. Parce que n'oublions jamais que interrompre une relation, ça n'est pas la même chose que continuer une relation. Supprimer le souffrant, ça n'est pas la même chose que supprimer le souffrant. Il y a là des repères simples, élémentaires, et plus je parle à des gens peu cultivés, et plus ils me comprennent. C'est bizarre. Si je dis ça à des aides-soignantes, elles comprennent du premier coup. Si je dis ça à certains professeurs de médecine, ils ont un peu de peine à suivre. Mais je m'excuse pour les professeurs de médecine qui peuvent être dans la salle, parce que bien évidemment, il y en a qui sont tout à fait réceptifs et sensibles à ça. Mais c'est curieux, parce que ce n'est pas une question de culture, ce n'est pas une question de formation philosophique, c'est une question de bon sens élémentaire. J'ai vu des enfants de 11 ans mieux comprendre que des grandes personnes ce que j'explique ici sur la différence entre transgression et nier une loi. Ils le savent très bien, eux, quand ils font une bêtise. Ils savent très bien que c'est une bêtise et que quelquefois la bêtise elle est pardonnable et que quelquefois elle n'est pas pardonnable. Et ils savent très bien qu'il ne faut pas changer l'interdit pour autant. Hein, l'interdit il est structurant anthropologiquement. Alors ce que j'ai observé aussi, c'est que l'interdit de tuer donné à des soignants, il est important parce que, vous savez, là, je pourrais laisser la parole à des psychologues ou des psychanalystes, la pulsion mortifère, elle habite chacun de nous, elle habite les soignants. Et pour y résister, pour lutter, il vaut mieux qu'il y ait un interdit social qui soit là. Il vaut mieux pas aller à la hollandaise, justement, déplacer le curseur comme ils l'ont fait. Parce que quand cet interdit n'existe plus, eh bien, pourquoi essayer de se battre pour inventer des solutions à des situations difficiles? Les progrès en soins palliatifs dont nous nous réjouissons tous ont été faits depuis 20 ans parce que des gens ne se sont pas résignés à achever des malades, parce qu'ils se sont dit, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va essayer d'inventer? Et on a réussi, justement, beaucoup, beaucoup de choses de ce point de vue-là. Et beaucoup de soignants m'ont dit, oh, moi, à titre personnel, je serais pour l'euthanasie. Mais en tant que soignant, je suis contre l'euthanasie parce que je sais que ce serait une régression dans la qualité du soin que j'apporte. Ce serait pour moi une solution rapide de facilité. Alors, j'en sais un petit peu sur Chantal Sébiré. Je crois qu'un jour, il va y avoir un article. Si ce n'est pas moi qui le signe, ce sera quelqu'un d'autre. Mais on va voir que dans cette affaire, certes, elle a eu des difficultés à accepter le soin. Elle l'a même refusé. Mais on va s'apercevoir que peut-être qu'à certains moments du parcours, du processus, les soins n'ont pas été à la hauteur de ce qu'elle pouvait attendre. On verra aussi que des personnes sont intervenues dans son entourage pour lui dire « Non pas, madame, on va essayer de faire que vous finissiez votre vie d'une manière accompagnée et soulagée », mais sont venus lui dire « Madame, bravo, c'est un grand combat que vous menez et nous sommes avec vous et nous sommes ravis de voir votre tête à la télévision puisque votre tête, justement, elle est médiatiquement très porteuse dans la mesure où vous êtes, justement, une icône vivante de la détresse humaine et même on va essayer de se battre auprès d'un juge pour que vous soyez euthanasié. » Ben, excusez-moi, mais moi aussi, des personnes m'ont dit cela. Eh bien, mon réflexe n'a jamais été de leur dire « on va se battre pour que vous soyez euthanasié ». Mon réflexe a toujours été de leur dire « je vais me battre parce que tu comptes pour moi, parce que je crois que ta vie importe et que tant que tu ne souffres pas, tant qu'on peut soulager ta souffrance, eh bien, ta vie d'être humain, que tu sois mon proche d'ailleurs ou que tu ne sois pas mon proche, eh bien, ça importe ». Et c'est peut-être à cet endroit précis qu'il y a une différence de philosophie entre certains, pas tous, mais entre certains responsables du mouvement dont vous vous êtes fait le porte-parole et d'autres qui, certes, ne sont pas audibles médiatiquement, mais qui pourtant, jour après jour, médiatiquement, hors des médias, je voulais dire, et dans la discrétion, dans le silence, accompagnent. J'ai dans mes relations une dame tétraplégique, infiniment plus gravement atteinte que Vincent Humbert, depuis 23 ans, et qui m'écrit parce qu'elle a l'usage de son doigt toutes les semaines pratiquement, et qui n'en peut plus elle aussi d'entendre ce genre de discours où l'on lui signifie indirectement, que vous le vouliez ou non, que nous le voulions ou non, que sa vie est à l'égal de celle qui demande à disparaître. Eh bien, moi, je considère que son mari, qui depuis 23 ans passe 2 heures chaque matin à l'habiller, 1 heure chaque soir, eh bien, c'est plus intéressant que les affaires qu'on nous présente à la télévision. Et lorsque j'ai proposé à TF1, l'émission de 7 à 8, que cette dame soit interviewée, parce qu'on m'avait proposé un petit temps de parole, on m'a dit « Non, monsieur, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est quelqu'un qui demande la mort. » Voilà, il y a une fascination pour la mort dans notre société. Il n'y a pas de fascination pour la vie. Donc voilà pourquoi ceux de la DMD qui le souhaitent peuvent adhérer à Jalmalve et accompagner les vivants, c'est-à-dire faire valoir le devoir de fraternité avant de faire valoir le droit à la liberté. J'ai pas fini parce qu'il y a la question du suicide. La question du suicide est une question difficile. En fait, elle est assez simple. Vous savez, quand je suis arrivé à la mission parlementaire, la première question qu'on m'a posée, ainsi qu'à André Comtes-Sponville, qui était assis à côté de moi, puisque nous étions les deux philosophes concernés par cette question, « Messieurs les philosophes, est-ce que vous considérez qu'on a un droit au suicide ?» Alors, Comtes-Sponville répond, tête baissée, « Oui, bien sûr, on a droit au suicide. » Et moi, je réponds, « Non, la question n'est pas si simple. Nous avons, bien sûr, la possibilité de nous suicider. » C'est-à-dire que le fait de porter atteinte à ses propres jours, contrairement à ce qui se passait dans la législation avant 1791, n'est pas criminalisable. C'est-à-dire que quelqu'un qui demande, qui se suicide, un suicidaire ou un suicidé, n'est pas condamné, bien que ce soit un meurtrier. Meurtrier de soi, mais meurtrier. Et donc, vous le savez, religieusement, juridiquement, moralement, socialement, on réprouvait les suicidaires et les suicidés. Je n'en veux pas à ces sociétés qui ont fait ça parce qu'elles avaient, elles aussi, à se défendre contre les pulsions mortifères. Mais enfin, nous avons quand même évolué, heureusement, tout au long du XVIIIe siècle, et cela s'est concrétisé à la fin du XVIIIe par la décriminalisation du suicide. C'est-à-dire que désormais, le suicide n'est plus un mot qui figure, à une exception près, sur laquelle je vais revenir dans un instant, dans notre code. Autrement dit, le suicide est une liberté civile, une liberté personnelle. Mais attention, ça n'est pas un droit. Ne confondez jamais les deux choses. C'est une liberté au sens où... Là, il y a à s'incliner devant l'énigme de quelqu'un qui dit et qui fait l'acte qui correspond à ce qu'il dit. Mais ce n'est pas un droit. Parce que si c'était un droit à ce moment-là, l'article de la loi qui dit que l'incitation au suicide doit être réprimée ne devrait pas exister. C'est le seul endroit de notre dispositif juridique où se trouve le mot de suicide. L'incitation au suicide est interdite. Et alors, cela veut dire que c'est une liberté qui n'est pas poursuivi pénalement, mais ça n'est pas un droit, parce qu'un droit supposerait qu'il y ait une obligation en face, évidemment. On parle de droit créance, par exemple. Il y aurait donc, de la part de l'État, une obligation de fournir les moyens du suicide à ceux qui demandent le suicide. Mais justement, ça n'est pas le cas. Autrement dit, le suicide, sur le plan juridique, comme à mon avis, sur le plan moral, ne peut pas être ni condamné, ni approuvé. Voilà. Alors, sur le plan religieux, c'est autre chose, mais je suis philosophe ce soir, et si vous m'interrogez sur les différentes conceptions religieuses du suicide, je peux également en parler, mais ce n'est pas le but immédiat. Alors, quand on a dit cela, on a tout simplement réglé la question, puisque si le suicide est une liberté, il ne s'ensuit aucunement, puisque ce n'est pas un droit, que la société doit être en mesure de fournir les moyens de se suicider à qui le demande. Je m'en suis expliqué, parce que vous voyez que j'ai des dîners amicaux avec beaucoup de monde, je m'en suis expliqué avec le président d'honneur de la DMD, Henri Caillavé. Je passe mes vacances à 500 mètres de chez lui, et donc, bien qu'ayant beaucoup de divergences sur beaucoup de points, d'ailleurs, ce n'est pas sur celui-là qu'on est le plus opposé, c'est sur un autre. C'est sur celui où il a demandé à ce que les enfants handicapés n'aient pas le droit de naître. Un vrai débat de fond. Mais lui qui a tué son père il y a 40 ans parce que son père le lui a demandé alors que son père n'était pas en fin de vie, j'ai eu à m'expliquer avec lui. C'est lui qui est donc, c'est pas le seul, mais il est quand même à l'origine de la DMD. Je crois que je l'ai convaincu parce qu'il a quand même un peu de culture philosophique et qu'il est très vaillant malgré ses 93 ou 94 ans. Qu'on ne pouvait pas déduire, comme il l'avait écrit imprudemment, d'une possibilité de se suicider un droit au suicide. Et pourtant, c'est un juriste. Alors, le petit philosophe qui en remonte au juriste, c'est évidemment assez rigolo. Mais en même temps, il me disait, le cher Henri Caillavet, que son père avait toujours été très autoritaire toute sa vie et que donc à la fin il avait posé vis-à-vis de lui des exigences fortes. Quand votre père exige que vous le fassiez mourir, c'est pas facile pour un fils. Or il l'a fait. Et je comprends qu'aujourd'hui il ait besoin de légitimer son acte parce que sa culpabilité est tellement forte que il croit que par une légalisation il parviendrait à régler son problème de conscience. Mais enfin, un jour je crois que j'écrirai quelque chose autour de mes conversations avec mon ami le sénateur Caillavet. Voilà ce que je voulais vous dire aussi sur le suicide. J'ai été long dans ma réponse, mais il est vrai que vous aviez été long aussi dans votre question.
Bien, je vais juste intervenir sur un petit sujet qui intéresse tous les hospitaliers actuellement. Les financiers ont pris le pouvoir à l'hôpital. Et aujourd'hui, ça devient très difficile de soigner les gens. Il est paru récemment un article, le 13 mai dernier, dans le Panorama du médecin, un article du professeur Goldwasser, qui dit la chose suivante. L'euthanasie est d'abord un acte d'incompétence médicale. Alors, ça pourrait être le sujet d'un long débat qui nous amènerait jusqu'à demain matin. Par contre, il dit autre chose qui est très intéressant. Il dit, d'autre part, la pression budgétaire qui pèse fortement sur les médecins favorise elle aussi l'euthanasie, qui peut apparaître comme une réponse au dilemme récurrent du manque de lits. Dans ce contexte, légaliser l'euthanasie aurait des conséquences désastreuses. Je livre ces mots à votre réflexion.
Mais attendez, ce que vous dites ici, moi je l'ai entendu de mes oreilles entendues, c'est acté, vous pouvez le regarder sur Internet, de la bouche de André Comte-Sponville, lors de cette audition du 17 décembre 2003, dans laquelle nous étions associés devant les parlementaires, et d'ailleurs, vous verrez la réaction médusée de l'un d'entre eux. Comte-Sponville a dit clairement, en effet, c'est plus économique. Il a dit ça fera des économies si on légalise l'euthanasie. Alors évidemment, on n'est pas exactement sur la même longueur d'onde et dans la même logique quand on dit une chose pareille. Et alors, ce que lui dit avec naïveté tout haut, d'autres le pensent évidemment tout bas. Oui, et puis vous avez pu remarquer, pourtant, qu'il vient ce cher collègue philosophe, qui par ailleurs est très intéressant. Je recommande sa lecture à l'auditoire ici. Je la recommande aussi à mes étudiants. Beaucoup de ses livres sont à la fois accessibles et bien faits. Moi, j'aime bien lire et faire lire du Comte Sponville. Mais sur cette question, je crois qu'il est complètement aveuglé. Enfin, c'est pourtant facile à démonter, l'ensemble de ses arguments. Et pourtant, vous aurez remarqué, peut-être, qu'il vient d'être nommé au Comité consultatif national d'éthique. Voilà le philosophe qu'on a été choisir. Bon, ben, dont acte.
Je peux me permettre de vous citer ? L'euthanasie, c'est une très bonne solution à court terme, mais ça empêche d'être inventif. Inventif.
Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, oui.
C'est ce que vous avez dit. Non, pas. Je crois.
J'ai pas dit que c'est une très bonne solution à court terme.
Vous avez dit c'est une bonne solution à court terme, mais ça empêche d'être inventif. Et moi, je suis infirmière.
J'ai dit que certains soignants en disaient ça. Oui, enfin,
bref. Je suis infirmière en soins palliatifs. Et ce qui s'est passé là autour de Chantal Sébir, ça a posé aux patients qu'on suit la question de la dignité. Tout à coup, ils se sont demandé s'ils étaient dignes, effectivement. Et ben notre réponse a été, vous trouvez qu'on vous empêche d'être digne là en vous accompagnant? Et puis ben non, pas du tout en fait. Mais comme les médias ne leur donnaient pas cette réponse-là, ils étaient complètement inquiétés. Et c'était incroyable. Nous, on a eu de la chance de pouvoir leur répondre à cette question qu'ils posaient.
Moi, ça a été immédiat, les réactions que j'ai eues après cette affaire, venant évidemment de gens dont on ne parle pas beaucoup à la télévision sous cet angle-là, les associations d'handicapés et en effet les services de soins palliatifs ou les services de cancérologie. Immédiatement, il y a eu des réactions et des demandes d'euthanasie. D'ailleurs, les bureaux, les téléphones de la DMD ont cessé de sonner pendant toute cette période. Évidemment que lorsque une société tout entière, par médias interposés, dit « ben oui, il n'y a pas d'autre solution que celle-là », évidemment que les personnes vulnérables vont réclamer le droit d'être euthanasiées parce que leur vie ne vaut plus d'être vécue. Je vous remercie en tout cas de votre témoignage. Je crois que on ne voit pas les dommages collatéraux sur les plus vulnérables dans toutes ces affaires. honteusement médiatisée, mais parce que c'est la logique de la télévision. Moi, j'en parle avec des amis journalistes, j'ai des jeunes amis qui travaillent à la télévision, mais qui me disent, mais nous, on n'est ni pour ni contre, simplement, on sait ce qui est vendeur et ce qui ne l'est pas. C'est tout, c'est tout. Donc voilà pourquoi vous commencez à comprendre pourquoi je vous ai félicité de ne pas regarder la télévision ce soir. Et faites comme moi, ne le regardez jamais, sauf pour les matchs de football. Parce que là c'est intéressant. Mais autrement. Alors évidemment, à Poitiers, vous ne jouez pas dans une grande division, mais nous, on remonte en Ligue 1 à Nantes. Hein. Peut-être qu'il faut savoir terminer une rencontre. Ceux qui veulent en savoir plus peuvent toujours perdre un peu de temps avec moi en discutant tout à l'heure. Je suis à leur disposition, voire acquérir tel ou tel ouvrage, parce qu'en une heure et demie, on ne peut pas dire tout. C'est pour ça que j'écris. Je n'écris pas pour vendre des livres, je ne fais aucun bénéfice là-dessus, mais j'écris parce que je sais qu'il y a de la frustration à la fin de chacune des séances, et on peut retrouver, avec les nuances, avec les développements, avec les références, ce que j'ai essayé de dire dans ce que j'écris. Voilà pourquoi vous aurez quelques écrits à la sortie pour ceux qui le désirent.
Juste un témoignage de pratiques quotidiennes de douleurs et soins palliatifs. Maintenant, il y a un peu plus de 20 ans, Annie, puisque nous avons travaillé ensemble. Hein. En 20 ans de pratiques de douleurs et soins palliatifs, les demandes d'euthanasie réelles qui m'ont été proposées, qui m'ont été demandées, peuvent se compter sur les doigts d'une main. Et généralement, quand on a soulagé les gens correctement, qu'on les a pris en charge correctement, on entend la chose suivante. Docteur, je vous ai dit une bêtise l'autre jour. Hein, veuillez m'excuser. Je ne sais pas si on peut généraliser ce commentaire-là.
Parce que
cela peut arriver.
Écoutez, je circule de ville en ville. Je donne à peu près... je fais 80 conférences par an, dont une trentaine sur ce genre de sujet. Et vraiment, à chaque fois, j'ai ce témoignage. Vous êtes responsable vous-même du traitement antidouleur. Vous êtes le docteur Diallo, c'est ça ? On m'avait prévenu que vous seriez peut-être là ce soir. Mais je vous remercie de votre témoignage. Il est tout à fait conforme à ce que j'entends dire partout. Partout, partout, partout. Sauf à la télévision.
Alors, effectivement, nous avons dans la salle de nombreux soignants et de nombreux médecins, infirmières et soignantes qui, depuis des années, travaillent au soulagement de la douleur et aux soins de confort qu'on dit soins palliatifs. Et ça, je crois que c'est très important et ils travaillent dans l'ombre. Et on ne parle pas d'eux, et pourtant ils sont là auprès des malades à accompagner et à accompagner les familles. Et c'est vrai que les bénévoles de JALMAV rencontrent ces équipes et peuvent témoigner de ce travail de collaboration que nous avons, travail de collaboration, oui, qu'on peut dire avec eux. Et moi, je voudrais tirer un grand coup de chapeau à tous ces soignants depuis des années, dans l'ombre, font des recherches pour justement répondre aux besoins des personnes en fin de vie et les accompagnent comme ils peuvent, avec les moyens qu'ils ont. Et je remercie d'autant plus les équipes qui nous accompagnent, qui acceptent justement les bénévoles en complémentarité, qui accompagnent les malades et les familles. Voilà, alors encore un grand bravo à vous et puis à vous tous qui êtes venus. Et je remercie tout particulièrement M. Rico qui nous a enrichis du concept de la dignité à différents niveaux. Alors, je ne vais pas reprendre. En tout cas, bravo et merci M. Rico de nous avoir aidés à clarifier cette notion de dignité.